m'entendez ? Voilà, ça va venir. Bonsoir, comment ça va ? Très bien, je suis content de vous accueillir. Alors tout de suite une précision, surtout vous ne regardez pas l'heure qui est affichée, elle est fausse. Voilà. Parce que vous allez avoir l'impression que le temps est long, que le temps ne passe pas vite, que nos intervenants sont pénibles, mais non, pas du tout, c'est l'horloge qui ne marche pas. Voilà. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous Pôle Info Santé, créé il y a 19 ans maintenant. C'est le fruit, vous le savez, d'un partenariat, je le répète tout le temps, mais c'est important, entre le CHU, dont l'une des missions, c'est l'éducation à la santé, et puis l'Espace Mendès France, qui est un centre de culture scientifique. Et l'objectif de ce rendez-vous, c'est de vous permettre, vous, grand public, d'échanger avec des pros, des professionnels de la santé, du milieu hospitalier, des spécialistes qui sont là pour répondre à vos questions, quasiment à toutes vos questions. Je vous demanderai, comme à chaque fois, évidemment, de généraliser vos questions pour que ça puisse concerner un maximum de personnes. Voilà, les intervenants vont se présenter dans un instant. Je vais laisser le faire. Le thème de la soirée, c'est la prise en charge de l'obésité sévère. À la fin des exposés, vous allez pouvoir poser vos questions. Je passerai dans la salle avec mon micro. Il y a aussi la possibilité pour vous, pour les plus timides, de m'écrire des questions sur des fiches. Vous devez avoir un papier théoriquement dans les documents qu'on vous a donnés. J'ai déjà des questions qui me sont parvenues. Donc vous n'hésitez pas une seconde, si vous ne voulez pas prendre le micro, il n'y a aucun problème. Vous avez également entre vos mains des documents qui vont permettre sont des fiches d'évaluation, en fait, de compléter un petit peu, nous, votre ressenti, de voir un petit peu comment vous avez ressenti cette soirée, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer, si on a été parfait, si on est beau, enfin, vous nous dites tout. D'accord ? Je compte sur vous pour dire qu'on est beau. Elle est très importante parce qu'elle permet, évidemment, de nous améliorer au fur et à mesure des rendez-vous pour l'info santé. Pensez donc bien la remplir et vous la remettrez tout à l'heure à nos hôtesses qui seront juste à la sortie pour les récupérer. Cette conférence, vous l'avez compris, est traduite également à l'attention du public sourd que l'on salue. Alors, je sais, comment on dit déjà bonsoir, rappelez-moi. Comment je dis bonsoir? Voilà. Parce que l'autre fois, j'avais fait ça, mais c'était pas bon. Je vous demanderai d'éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît, en tout cas de les mettre bien sur vibreur. Qu'on ne soit pas embêté par les bloum, 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 bloum. Et vous pourrez réécouter évidemment cette conférence sur le site de Mendès France, je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors l'obésité est-elle une maladie ? On parlera de la prise en charge nutritionnelle, du suivi, du vécu, de l'image du corps, de la chirurgie. Voici quelques points que nous allons évoquer ensemble ce soir. Bienvenue donc à cette 99e conférence Pôle Info Santé, l'Espace Mendès France. Non, je me suis trompé la dernière fois. Voilà, c'est là que je vais reconnaître les fidèles et ceux qui nous suivent. La dernière fois, j'ai déjà dit que c'était la 99e, mais là, c'était la 98e. En fait, j'en ai. Voilà.
Vous radotez, Franck, il y a quelque
voilà. Je radote un peu, excusez-moi. C'est prévu qu'on fasse quelque chose sur Alzheimer. Je vous présente les intervenants. Le docteur Xavier Piguel, il est endocrinologue au Centre régional spécialisé pour l'obésité au CHU de Poitiers. J'ai à peu près bien résumé ? Oui, c'est vous.
Oui, c'est ça.
Ouais, il va falloir que je me fasse encore avec les visages. Docteur Diane Lévy Chavagna, que je connais puisqu'elle est déjà intervenue dans plusieurs rendez-vous, psychiatre au centre hospitalier Henri Laborie. Bonsoir. Le professeur Jean-Pierre Faure, chirurgien viscéral au CHU de Poitiers. Bonsoir. Ouais, je commence à connaître maintenant les visages. Et le docteur Martine Breu, qui est médecin généraliste et nutritionniste. Bonsoir. Je vais donc vous laisser démarrer, chacun donc un petit topo de 10 minutes, et on se retrouve juste après.
Bonsoir. Donc, je vous remercie de nous laisser l'opportunité de parler d'un sujet important aujourd'hui, qui est celui de l'obésité. Et donc, je vais vous présenter pendant les 10 prochaines minutes, un petit peu rapidement, ce qu'est l'obésité, ce qu'on entend par l'obésité, et comment on peut, dans les grandes lignes, la prendre en charge. Alors, je suis effectivement endocrinologue, un peu nutritionniste, et je coordonne au CHU de Poitiers le Centre spécialisé d'obésité, où on travaille tous les quatre ensemble pour la prise en charge de l'obésité sévère. Alors déjà, Jean-Pierre, s'il te plaît. On va définir ce qu'est l'obésité. Et l'obésité, eh bien, il ne faut pas avoir peur des mots, il faut appeler un chat, c'est une maladie chronique qui a plusieurs origines. Maladie parce qu'elle expose à certaines complications dont vous connaissez certaines, comme le diabète, l'hypertension, les apnées du sommeil. Autant de complications qui sont néfastes pour la santé. Alors ça correspond à quoi ? Ça correspond à un excès de masse grasse qu'on va essayer d'évaluer un peu tant bien que mal par cet indice que les Anglais appelaient le BMI, que nous on appelle en français IMC, indice de masse corporelle, parce que les médecins ils aiment bien faire des catégories, que c'est plus facile pour nous de prendre en charge les gens. Et donc l'IMC, ça correspond à quoi ? Ça correspond à votre poids exprimé en kilos sur votre taille élevée au carré. Et avec cet indice, eh bien, ça permet d'avoir certaines notions. Et pour un individu entre 18 et 65 ans, le poids normal, enfin l'IMC normal est entre 18 et 25. On parle de surpoids entre 25 et 30 kg par mètre carré. Et l'obésité au sens médical, eh bien, on la définit lorsque cet indice de masse corporelle il dépasse les 30 kg par mètre carré. Et après, on va rentrer dans l'obésité sévère ou morbide. Morbide, non pas au sens de mort, comme on l'entend parfois, mais morbide, ça veut dire maladie. Donc l'obésité sévère, quand on est au-delà de 40 kg par mètre carré. Alors bien sûr, ça peut être limitant de juste identifier l'obésité par l'indice de masse corporelle, parce que quand on prend quelqu'un comme Teddy Riner, champion olympique de judo, eh bien, lors des JO, il y a un an, il pesait 131 kg pour 2 mètres. Donc son indice de masse corporelle, c'est 32. Donc si on est purement mathématique, eh bien, Teddy Riner, il est obèse. Et bien évidemment, il n'est pas obèse, Teddy Riner. Il est très musculeux, hein, vous le voyez un petit peu sur la photo. Et donc, c'est très réducteur, finalement, d'évaluer l'obésité seulement avec l'indice de masse corporelle. Bien sûr, ça ne s'applique pas non plus à la femme enceinte qui est amenée à prendre du poids pendant cette période. Donc, l'IMC ne suffit pas. Et on a un autre moyen assez facile en tant que médecin, c'est le tour de taille. Le tour de taille, hein, on utilise quelque chose de tout bête, hein, c'est un mètre de couturière. Et on évalue donc le périmètre abdominal, juste ici, là, entre la dernière côte et le haut des hanches. Et on parle d'obésité androïde, androïde comme andros, l'homme, parce que les hommes ont tendance à prendre du ventre, tandis que les femmes, elles ont tendance à prendre de la culotte de cheval. Eh bien, on parle d'obésité androïde quand on a notre tour de taille à plus de 94 cm chez les hommes et à plus de 80 cm chez les femmes. Alors, on a souvent cette représentation un peu schématique où l'homme a une obésité donc au niveau du ventre, et c'est celle-ci qui n'est pas bonne pour la santé, en particulier pour le diabète. Et puis la femme, donc, qui a plutôt tendance à stocker au niveau de la culotte de cheval, qui n'est peut-être pas aujourd'hui considérée comme étant esthétique, pour certains encore que, mais qui n'est pas forcément délétère sur le plan de la santé. Alors qu'est-ce qu'il en est de l'obésité aujourd'hui en France ? Aujourd'hui, sur l'enquête de 2012, il y a 15% de la population qui est obèse, donc qui a un IMC à plus de 30. Et si on regarde ce qui se passe dans notre région, puisqu'on habite nous où ? En Poitou-Charentes, eh bien, on a 13,8% de la population en Poitou-Charentes qui est en obésité. Et c'est à peu près équivalent sur les 4 départements de notre région. Et là, vous avez plusieurs couleurs, parce que ça représente les différentes enquêtes nationales qui ont été faites depuis 1997 jusqu'à 2012. Et je vous le dis parce que vous ne pouvez pas trop le voir, mais en 1997, eh bien, il y avait 8,8% de la population du Poitou-Charentes qui était obèse. Et donc, on a quand même quasiment doublé depuis. Mais si on est optimiste, eh bien, en 2009, on était à 14,2%. Donc, on commence à avoir un infléchissement de l'obésité. C'est ça, en fait.
Depuis que M. Piguel est arrivé.
Alors, qu'est-ce qu'on constate sur l'ensemble du territoire français ? Eh bien, on s'aperçoit qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, parce que, je vais peut-être juste revenir assez rapidement, mais vous voyez, dans le nord de la France, Nord-Pas-de-Calais, on est à 21%, alors qu'une région qui m'est chère, la Bretagne, on est seulement à 12%. Donc, on est plus obèse dans le nord et dans l'est que dans le sud et dans l'ouest. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'on est plus obèse, en moyenne, hein, à la campagne que dans les grandes villes, notamment à Paris, dont tout le nord qui est un peu épargné. C'est un peu plus élevé chez les femmes, 15,7%, que chez les hommes, 14,3%. Et on devient obèse de plus en plus tôt, encore que ça commence à se stabiliser, et que l'obésité qui démarre chez les enfants, elle est très difficile à prendre en charge après à l'âge adulte. Autre chose, c'est que c'est aussi tout à fait corrélé, c'est important de préciser, au niveau de revenus du foyer. Malheureusement, moins on a de moyens, et plus on a tendance à être obèse. Pourquoi est-ce qu'on devient obèse ? Alors, on essaye de le résumer sur une seule diapositive, ce n'est pas forcément simple. Alors, il y a d'abord un terrain, l'influence de la génétique. On n'est pas tous égaux face à la prise pondérale. De fait, vous l'avez sans doute constaté, il y a des gens qui prennent plus ou moins facilement du poids. Donc ça, il y a un terrain génétique, il n'y a sans doute pas un gène qui vous fait rendre obèse, mais sans doute un ensemble de modification de l'ADN qui fait qu'on est peut-être plus sensible à stocker ou à consommer. Mais une fois qu'on a dit ça, eh ben, on pourrait s'arrêter là, alors que ça ne suffit pas. Ensuite, le poids, c'est une balance. C'est une balance entre ce qu'on apporte, donc l'alimentation, et une balance entre ce qu'on dépense, et c'est l'activité physique. Et donc, chez quelqu'un qui a sans doute un terrain prédisposant à stocker, à prendre du poids, eh bien, à un moment donné, il va y avoir un déséquilibre où ce qu'on apporte, la diététique, est plus important que ce qu'on va dépenser en termes d'activité physique. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de jouer sur la thérapeutique, en essayant d'augmenter les dépenses énergétiques, c'est-à-dire au niveau de l'activité physique, quand celle-ci elle est possible, et en essayant d'avoir une alimentation qui est moins calorique pour avoir des apports énergétiques un peu moins importants. Alors, les grands principes de la prise en charge de cette maladie, qui est l'obésité, puisqu'encore une fois, c'est une maladie chronique, il n'y a pas de guérison au sens où on peut bien sûr perdre du poids, mais si on ne fait pas attention, ce poids il va être repris. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, puisque ben voilà, votre terrain génétique, vous l'avez, et il faut faire avec. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en charge à tous les instants de la vie. Et eh bien, ça expose à une triple souffrance, une souffrance du corps, le diabète, l'hypertension, l'essoufflement, les apnées du sommeil, une souffrance de l'esprit, parce qu'on peut se sentir moins bien dans sa peau, et ça le docteur Lévi Chavagne vous en parlera tout à l'heure, et puis une souffrance sociale, parce que ça peut être facteur d'exclusion, et puis parce que, eh bien, il peut y avoir, il faut le reconnaître, une forme de discrimination aussi face aux personnes obèses. Et voilà, bon, c'était juste pour une petite pointe humoristique, mais c'est vrai qu'on a un recrutement dans nos consultations de 80-90% de femmes, alors que les hommes, qui sont, vous l'avez vu, quasiment aussi obèses en proportion que les femmes, eh bien, consultent beaucoup moins, eh bien, parce que dans l'image des hommes, et peut-être dans l'image de la société, eh bien, ça n'a pas le même impact chez les hommes ou chez les femmes que l'obésité. Alors, le traitement, il va être compliqué, on va le voir, il va être à prendre sur le long terme, et c'est vrai que quand on ne se prend pas en charge, eh bien, on a tendance à prendre du poids de façon naturelle. Et ça, c'est une courbe de moyenne, parce qu'effectivement, on va faire des régimes, donc on va perdre du poids, et puis le régime, on ne le tient pas, donc on va reprendre du poids, et à nouveau un régime, et à nouveau, on reprend du poids, c'est ce qu'on appelle souvent ce fameux effet yo-yo, où on perd du muscle, on reprend du gras, et ainsi de suite, et ça devient de plus en plus difficile de faire un régime. Nous, en tant que médecins nutritionnistes, ou diététiciens, on est très souvent très satisfaits quand on arrive, sur le long terme, à ce que les gens ne prennent pas de poids. Et on considère que c'est déjà un acquis. On est extrêmement satisfait quand on aide les gens à perdre du poids et que ce poids perdu se maintient dans le temps. Et quand on arrive à perdre 10% de sa masse totale et qu'on arrive à la maintenir dans le temps, eh bien, on est très très content. Perdre 10 kilos quand on en pèse 100 sur un an, c'est un extrêmement beau résultat, surtout quand on le tient. Quand on arrive à perdre du poids de façon massive, surtout lorsqu'on a une obésité importante, ça c'est ce qu'on aimerait. On verra que la chirurgie bariatrique peut être un moyen effectivement d'obtenir ce type de résultat. Et ça, c'est un bon résultat quand on le maintient dans le temps, ce qui suppose d'avoir un suivi tout au long de cette perte de poids. Parce que souvent, voilà, quand on a une perte de poids importante, notamment quand on a un régime très très restrictif, eh bien, on reprend du poids de façon exponentielle. Alors, les principes thérapeutiques, on va vous les exposer. Il y a les conseils alimentaires, bien sûr, et le docteur Brou va vous en parler. Il y a l'activité physique, et on essaie de préciser que ce n'est pas de faire du sport, hein, parce que ce n'est pas forcément possible. Donc de l'activité physique, c'est justement bouger un peu plus, et ça passe en particulier par faire de la marche de façon un peu soutenue régulièrement. Ça passe par une prise en charge psychologique, et le docteur Lévi va vous en parler. Les traitements médicamenteux de l'obésité, eh bien, pour vous dire, n'existent pas. Il n'y a pas de médicament miracle qui fait perdre du poids. Parfois, on a un recours dans certaines conditions, comme vous l'expliquera M. Faure, à un traitement plus radical, à une chirurgie de l'estomac. Mais quelle que soit la prise en charge, ce qu'il faut, c'est être suivi longtemps et par des personnes voilà, qui s'y connaissent. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Alors, moi, normalement, je vous parle de la prise en charge diététique de l'obésité. Que je suis médecin nutritionniste et donc du coup je m'occupe que de ça. Comme on vous l'a dit, c'est une maladie chronique, et qui dit maladie chronique dit traitement chronique. Quand vous pensez à l'obésité, pensez toujours au diabète. C'est strictement le même genre de maladie. Un diabétique, on ne lui donne pas de l'insuline 15 jours par an. On lui donne de l'insuline tous les jours. Quelqu'un qui est obèse doit surveiller son alimentation tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire une fois tous les 107 ans. Comme pour le diabète, comme pour l'hypertension, prendre en charge son problème de poids, ça va apporter des modifications à la fois dans votre style de vie, dans votre façon de manger, dans votre activité physique. Les impacts seront sur tous ces aspects-là et il faut prendre en compte justement tous ces aspects-là. Une consultation pour une prise en charge diététique, ça commence toujours assez mal parce que les objectifs sont extrêmement différents pour le médecin et pour le patient. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Le patient, lui, quand il vient nous voir, ce qu'il veut, c'est maigrir. Il veut maigrir vite et il veut maigrir vite pour être beau. Il est prêt à faire des efforts considérables. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens sont prêts à faire comme régime, les trucs les plus dégueulasses. Rien ne les arrête. Du moment qu'ils font un effort sur une durée assez courte, qu'ils ont des résultats rapidement visibles, et après, il ne faut plus leur en parler. Le médecin, lui, en face, il sait que la maladie, elle est chronique, le traitement, donc chronique. L'amaigrissement n'est pas toujours possible. Il y a des gens qui ne peuvent plus maigrir. Se stabiliser, comme l'a dit M. Pigalle, c'est déjà pas mal. C'est déjà ramer contre le courant, donc c'est déjà bien. Que les efforts, il va falloir pas faire forcément des efforts trop importants, mais ils doivent être constants. Et que chaque changement qu'on fait dans sa vie doit être un changement définitif. Il ne s'agit pas de faire un régime parfait qu'on va faire 4 jours. Il vaut mieux des fois négocier sur un régime moins parfait, mais qu'on va pouvoir faire 3 fois par jour, 365 jours par an, les 40 années suivantes. Donc vous voyez, c'est d'entrée de jeu une consultation qui démarre très mal parce qu'on a chacun des objectifs très différents. Et puis comme dans toute relation, il va falloir que chacun y mette du sien pour aller vers l'autre et qu'on se mette d'accord sur une façon de faire. Quand vous analysez l'alimentation de quelqu'un, il y a 2 aspects à prendre en compte. Il y a le côté quantité. La quantité, c'est ce qu'on va mesurer en calories. Et quoi que vous fassiez, si vous voulez perdre du poids, il n'y a pas à tortiller, il faudra en manger moins. Donc tout le boulot, c'est de voir sur quoi on va pouvoir faire des économies. Sur l'alimentation des gens, qu'est-ce qu'on va pouvoir grignoter pour diminuer leur apport calorique. L'autre aspect de l'alimentation, c'est la qualité. Ce qu'on appelle la qualité, c'est l'équilibre alimentaire. Le fait d'avoir des protéines, du calcium, des choses et des machins. L'équilibre alimentaire, c'est très important pour être en bonne santé, mais à la limite, pour perdre du poids, on s'en fout un peu. Quand vous entendez à la télé, pour maigrir, manger équilibré, c'est complètement idiot. Si je vous donne un régime à 3000 calories par jour, même s'il est super bien équilibré, eh ben vous grossirez quand même, parce que c'est quand même 3000 calories par jour. Donc l'équilibre, on en tient compte, mais on en tient compte surtout pour que les gens restent en bonne santé. Mais le principal du travail, c'est de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au niveau des calories, comment on va pouvoir baisser les calories. Donc, on baisse les quantités, ça c'est sûr, mais là où c'est subtil, c'est qu'il ne faut pas baisser de trop. Donc, on en arrive à ce fameux effet yo-yo. Si vous mangez 2000 calories par jour et que vous dépensez 2000 calories par jour, ben, votre poids ne bouge pas. Entre ce qui rentre et ce qui sort, ça s'équilibre, vous êtes sur un poids stable. Vous décidez tout d'un coup que c'est trop pour vous, que vous allez faire un régime, un vrai, un où on souffre. Vous mangez plus que 1000 calories. Vous crevez un peu de faim, mais dans la mesure où vous en dépensez 2000, vous perdez du poids. Et ça, quel que soit le régime, je veux dire que ce soit un régime Weight Watchers, soupe aux choux, du camp ou tout ce que vous voulez. Du moment que vous diminuez votre apport calorique, forcément, vous allez perdre du poids. Puis ensuite, il arrive un moment où vous êtes toujours à 1000, vous faites toujours votre régime super bien, mais votre poids ne bouge plus, votre poids s'est stabilisé. Et votre poids s'est stabilisé parce que votre organisme s'est adapté. Il a appris à mettre en place des solutions qui sont moins coûteuses en énergie. Il fait le même boulot en dépensant beaucoup moins d'énergie. Quand les gens en sont là, ils se disent « mais à quoi ça sert? Je me prive de tout puis je ne maigris pas ». Alors du coup, c'est un peu déconcertant. Alors même si on n'en voit pas tout promener, forcément, on va faire un peu moins bien. Si vous passez de 1000 à 1200 calories par jour, pour vous faire une idée, 200 calories de différence, ça va être quoi, deux yaourts et un fruit, hein, c'est de l'ordre du ridicule. Vous êtes à 1200 calories par jour, mais votre organisme, lui, qui a appris à faire des économies, reste à 1000. Du coup, vous vous retrouvez en excès, vous reprenez tout le poids que vous avez perdu et plus, alors que vous mangez beaucoup moins que ce qui, au départ, vous permettait de stabiliser votre poids. C'est ce qui se passe quand les gens disent bah, « j'ai fait le régime machin, j'ai perdu 8 kilos, c'était super bien. J'ai repris du poids, 5 ans plus tard, j'ai refait le régime machin, toujours aussi bien, mais j'ai perdu que 4 kilos. Puis après, j'ai repris du poids, et puis j'ai refait une troisième fois le régime machin, et là, j'ai pas perdu un gramme. » C'est que votre organisme, bah, vous ne pouvez pas le tromper indéfiniment. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Eh bien, on essaye de voir ce que les gens mangent spontanément. Mettons qu'on voit spontanément, ils mangent 2000 calories. On se dit, bah, pour perdre du poids, il va falloir en donner moins. Il va falloir en donner suffisamment moins pour qu'ils perdent du poids, mais pas trop moins pour pas qu'ils se retrouvent piégés sur des apports caloriques trop bas. Et le seul repère qu'on ait de qu'est-ce qui est trop moins pour vous et qu'est-ce qui n'est pas trop moins pour vous, c'est les sensations de faim et de satiété. Ça veut dire que la principale activité du médecin nutritionniste, c'est déjà apprendre à ses patients à faire la différence entre la faim et l'envie de manger. Or, les trois quarts du temps, on s'aperçoit qu'on mange pour répondre à des émotions. On est content, on mange. On est triste, on mange. On est en colère, on mange. Et puis, quand on s'ennuie, on mange aussi. Donc, c'est un des premières choses à faire quand on essaye de gérer son poids, c'est d'apprendre à manger quand on a faim et à ne pas manger quand on n'a pas faim. Vous allez dire, 10 ans d'études pour arriver à faire ça, c'est quand même assez subtil. Mais n'empêche que c'est ce qui marche. Une autre chose qu'on essaye d'apprendre aux gens, c'est à évaluer les quantités de protéines qu'ils consomment. Les protéines, c'est ce qu'on va trouver dans la viande, le poisson, les œufs. C'est ce qui entretient vos muscles. Si vous perdez de la masse musculaire, vous aurez beaucoup de mal à maigrir. Donc l'apport en protéines, c'est quelque chose aussi qui est très important. Et l'un des derniers points qu'on apprend à gérer à nos patients, c'est à dépister le gras contenu dans les aliments. On sait tous que le gras fait grossir. Mais quand on vous dit fromage, vous n'imaginez pas forcément du gras. Ben si, vous savez bien qu'il y a un peu de gras dedans, mais à quel point, on ne sait pas. Donc on apprend à nos patients que s'ils ont mangé du pâté en entrée, ben ils ne peuvent pas avoir du fromage après et du gâteau en dessert. Il faut bien dépister le gras contenu dans les aliments de façon à ce que chaque repas n'apporte pas des quantités de gras trop importantes. Et puis on apprend aussi à nos patients à tenir un cahier de surveillance. Ça, c'est un outil qui est très important à mettre en place et ça fait partie vraiment du suivi de toute personne qui a un problème de poids. Le rôle du nutritionniste dans cette affaire, bah, c'est d'accompagner les gens tout au long de cette vie de misère, de lutter contre les idées fausses et les derniers modes. Alors on lutte contre le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, ça c'est surtout Kellogg's qui l'a dit. Il faut manger léger le soir parce qu'après on dort et qu'on ne dépense pas, ça aussi ça n'a jamais été prouvé. Enfin bref, toutes ces idées qui traînent dans l'inconscient collectif, et ça c'est déjà du boulot. Il faut lutter contre les dernières modes. Mais qu'est-ce que vous pensez, docteur, du régime du docteur machin ? Ma voisine, elle a perdu 10 kilos en faisant ça. Oui, mais elle en a repris combien ? À propos de Ducan, 5 ans après avoir fait un Ducan, 98% des patients ont plus de poids que ce qu'ils en avaient au départ. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est aider les gens à comprendre leur maladie. On arrive à se soigner, à faire son traitement quand on comprend pourquoi on le fait. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de suivre un traitement si vous ne lui expliquez pas à quoi ça sert, ce qu'il fait. Comprendre, c'est aussi accepter sa maladie. Et déjà, le simple fait d'accepter le fait qu'on a un problème avec son poids et qu'il va falloir s'en occuper, c'est déjà du gros boulot. Un problème de poids, ce n'est pas un accident dans sa vie. Ce n'est pas en perdant 10 kilos et puis après en pensant autre chose que ça va s'arranger. Donc, c'est petit effort, 3 fois par jour, 365 jours par an, 40 ans. Donc, c'est le travail du médecin nutritionniste. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin des psychiatres, parce que vous voyez, ce genre de choses, ça finit vite par vous monter au cerveau.
Alors, merci Martine de ton intervention, toujours très claire et qui va droit au but, et qui bouleverse un petit peu ce qu'on pense hein, savoir sur la nutrition en général. Alors moi, je vais avancer un petit peu plus sur l'obésité sévère, mais également préparer un peu l'intervention du chirurgien après. Bon, depuis quelques années, en travaillant avec les personnes obèses, en particulier celles qui veulent être opérées, donc la question, c'est finalement, bon, être obèse morbide, être obèse sévère, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut continuer à vivre comme ça? Pourquoi finalement les gens ont envie quand même de sortir de cette spirale? Donc là, vous avez, bon, on parle des êtres humains, mais les animaux ne sont pas épargnés, hein, par l'obésité. Hein. Et donc là, bon, on a un couple de souris, avec une souris obèse sévère et puis l'autre qui ne l'est pas. Donc l'obésité, c'est donc l'étymologie. Hein, bon, l'obésité, être obèse, bon, ça vient d'une racine latine, hein, de ob, qui veut dire devant, en face, dans la direction de, à cause de. Et de édérer, qui veut dire manger. Donc dans l'obésité, hein, le fait d'être sous l'influence de la nourriture. Alors, il y a pas mal d'idées fausses, hein, et Martine Breu en a déjà porté, donc je vais continuer, hein, à marteler un peu ça. Les idées fausses, quelles sont-elles? L'obésité n'est pas une maladie, hein, voilà, c'est une tare, un défaut, quelque chose qui vous arrive parce que vous l'avez bien cherché. Les obèses sont très contents d'être obèses, ils sont gays, ils vont bien, ils vont devenir tristes si jamais ils maigrissent trop. Or, nous, c'est bien le contraire qu'on voit le plus souvent, hein, les gens revivent plutôt, hein, et leur caractère change, hein, ils sont moins irritables, ils sont plus heureux. Autre idée fausse, vouloir se faire opérer de l'obésité, c'est une très grande facilité, hein, c'est des gens qui manquent de volonté, et les gens qui sont dans les démarches d'arriver à s'en sortir, éventuellement aussi par la chirurgie, souffrent d'entendre ça autour d'eux. Hein. Après, c'est difficile, hein, comme disait Martine Breu, c'est 365 jours par an qu'il faut être vigilant. Et la préparation, hein, envers une chirurgie de l'obésité doit être assez longue, hein, au moins 6 mois, voire parfois 9 mois, 1 an ou 2, hein, le temps nécessaire pour que la personne soit vraiment en condition de pouvoir accepter de vivre différemment ensuite. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut parler à un psychiatre? C'est vrai que déjà, d'emblée, les gens ne font pas un lien direct, hein, entre le fait d'avoir une obésité, de devoir aller consulter. Mais bon, comme disait Martine Breu, ils sont souvent capables de faire tout ce qu'on leur demande. Hein. Donc, si on leur dit que dans le fait de devoir un jour peut-être être opéré, il faut qu'ils aillent voir un psychiatre, ils vont voir un psychiatre. Mais ça, c'est pas suffisant. Hein. Il ne s'agit pas juste de voir un psychiatre, de lui serrer la main et puis de dire « Ah, ouf, ça y est, c'est fini, je m'en vais. Bon, il ne m'a rien fait. Bon, » bon. Parce que ça fait peur, la psychiatrie, quand même. Donc là, la Haute Autorité de Santé recommande, hein, que les personnes voient un psychiatre pour évaluer, hein, s'ils n'ont pas des problèmes psychiques qui pourraient poser problème et qui pourraient faire qu'on ne les opère pas. Et c'est vrai, l'obésité ne s'installe pas subitement dans la vie de quelqu'un. Hein. Ça s'infiltre petit à petit, mais de manière certaine. Et l'histoire du poids va dépendre du baromètre émotionnel. Ça, mes collègues l'ont bien dit avant. Les émotions, hein, c'est très important. Hein, les émotions, la joie, la colère, la tristesse, toutes ces choses-là, ça peut provoquer, hein, des réactions. Je mange, voilà. Hein, je mange, je me remplis, j'ai besoin de ça. Hein. Alors, les carences affectives, hein, le fait d'avoir été très tôt dans l'enfance un petit peu maltraité, le fait d'avoir eu des deuils, hein, et beaucoup d'avoir eu des agressions sexuelles, hein, inceste, viol ou abus sexuels. On était assez surpris, hein, nous, dans les premiers temps, de découvrir, en particulier les chirurgiens, qui ne sont pas forcément très habitués à ce que les gens leur parlent de ça, il y avait vraiment ce problème-là qui était là. Et donc, l'obésité, dans ces conditions-là, prend une place, hein, qui n'est pas anodine, et qu'il faut bien sûr ne pas occulter. Donc la place démesurée de la nourriture a une place affective, une place de pour combler un manque, hein, qui est à explorer. Alors, les troubles du comportement alimentaire. Alors nous, psychiatres, on va à la chasse des troubles du comportement alimentaire, ce qu'ont déjà fait nos collègues nutritionnistes dans leur évaluation, hein, c'est-à-dire des grignotages, des compulsions, des accès de boulimie, hein. Tous ces points-là, il faut bien sûr comprendre pourquoi les gens ont été amenés à avoir ces comportements-là. Donc il faut poser les bonnes questions pour arriver à avoir des réponses qui soient adaptées. Et il faut, en particulier si les gens font de la boulimie, c'est une contre-indication formelle à la chirurgie de l'obésité. Donc il faut bien évidemment arriver à aider les gens, et on a possibilité de faire des thérapies dans ce sens. Et une fois que le patient a fait le lien entre le fait d'avoir des problèmes de poids et le fait d'avoir un comportement alimentaire qui peut être en lien avec des problèmes relationnels, des problèmes psychologiques, ça, on pense qu'on a déjà bien avancé, mais ce n'est pas du tout simple. Hein, ça ne coule pas de source. Il faut un certain temps pour arriver à pouvoir aboutir à ça. Alors, si un jour on vous propose une chirurgie, c'est que le suivi que vous avez eu n'a pas abouti à son résultat escompté. Comme disaient mes collègues, au moins déjà les gens ne grossissent plus. Et ça, c'est déjà très bien. Donc c'est très valorisant quand vous êtes en obésité, en particulier sévère, pendant 6 ou 7 mois, de ne plus grossir. Déjà ça, c'est très important. Mais bon, une fois qu'on va vous opérer, vous allez changer. Donc il faut changer dans son corps, mais il faut aussi changer dans sa tête et dans sa manière de se nourrir. Donc il faut sensibiliser les gens à se connaître, voire à se reconnaître. Parce que très souvent, les gens obèses, quelque part, se sont oubliés. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal. Par exemple, ils ne veulent pas qu'on les prenne en photo. Ils ne supportent pas de se voir en photo. Et pourquoi, finalement ? Ça, on doit en parler avec eux. On leur fait ressortir des photos. On essaie de les regarder ensemble. Et finalement, quel que soit le moment de leur vie et quelle que soit la photo, c'est toujours eux qui sont dessus, même s'ils ont beaucoup changé. Donc, il faut apprendre à se connaître et à se reconnaître. Et voir un petit peu comment on a pu arriver là-dessus. Moi, je dis souvent que l'obèse au bois dormant existe et que le prince charmant est peut-être, je n'osais pas le dire, le docteur Faure ou peut-être un de ses collègues. Donc là, je fais exprès de le titiller là-dessus. Alors, une fois que la chirurgie aura eu lieu, pour ceux qui auront cette opération, donc ça, le docteur Faure expliquera un petit peu les démarches, est-ce qu'on vous lâche dans la nature ? Surtout pas. On vous a bien briefé avant, on vous a coaché, on vous a préparé. C'est pas pour vous lâcher dans la nature. Et c'est évident que l'obésité reste en vous, elle est là. Donc il faut vous suivre. D'abord, c'est obligatoire. Bon, mais ça, c'est, je l'ai dit parce que c'était marqué, mais c'est pas forcément la raison qui va vous motiver. Il faut accepter son changement. Ça va très vite. On maigrit très très vite. Et donc, le cerveau, qui est un organe noble, mais qui est un organe lent, lui, il ne va pas intégrer très vite que vous avez changé. Donc, cette métamorphose, les autres vont vous dire « Oh là là, qu'est-ce que tu as maigri ? Oh, dis donc, t'es comment ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» etc. Alors, vous, au bout d'un moment, vous en avez ras-le-bol quand on vous dit ça, parce que ça commence à bien faire. Surtout que parfois, les gens sont assez discrets, assez modestes, assez timides. Et donc là, du coup, on va les regarder comme des bêtes curieuses. Ça va pas forcément leur plaire. Mais donc, le cerveau, il met du temps. Il met des fois un an et demi pour vraiment arriver à être en lien avec le corps, et ça, c'est pas évident. Et donc, la question qui tue aussi, c'est « Mais quand est-ce que tu vas t'arrêter de maigrir ?» Alors ça, c'est vraiment la question qui tue, parce que la réponse n'existe pas. À un moment, il y a un équilibre, comme vous ont expliqué mes collègues, le corps et l'esprit, c'est un équilibre. Un équilibre se crée, et globalement, on arrive à ne plus changer. Mais c'est absolument pas vous qui possédez cette réponse. Et nous, on dit bien aux gens, un jour, vous allez vous arrêter de maigrir quand même, parce que c'est pas... c'est vrai que c'est des escaliers qu'on descend plus ou moins vite, mais bon, à un moment, nécessairement, vous n'allez pas peser un gramme, donc il va y avoir un moment où ça va s'arrêter. Mais c'est pas évident, puisqu'il y a toujours cette espèce de plaisir, cette espèce de jouissance à voir la balance qui descend. Surtout chez des personnes qui sont restées très longtemps sous le joug de l'obésité. Alors, il faut se faire un book. Alors, non pas parce qu'on est des stars et qu'on va rentrer dans une émission de télé, mais parce que c'est important. Parce que, quelque part, c'est un peu une deuxième naissance. Quand vous avez fait 180 kilos pendant des années et qu'à un moment, vous vous retrouvez à 80 kilos, si vous ne vous rappelez pas celui que vous étiez avant, mais les gens, ils le disent. Ils disent, moi, je renais. Ils arrivent à l'expliquer. Donc là, on essaie d'être en lien avec une association qui va être présenté à la fin de nos interventions. Bon, pour ce qui concerne la région, c'est l'association Chrysalide. Ce sont des personnes comme vous qui sont obèses, qui sont opérées ou qui n'ont pas été opérées et qui ont donc cette possibilité de vous aider par des groupes de parole ou de soutien. Être plus heureux, c'est important. Sans être utopiste, on n'est quand même pas sur Terre que pour être malheureux. Donc, voilà, diapo suivante. Donc, alors, on entend souvent, hein, j'aurais dû faire ça avant, ça va très vite, je me trouve belle. Ou alors les enfants qui disent à leur maman, dès qu'ils sont petits, maman, t'es belle, maman, t'es belle. Alors ça fait pleurer, hein, je vous assure que les gens, ils pleurent, et nous, des fois, on pleure avec eux. C'est que du bonheur, les gens viennent vers moi. Ben oui, ben, quand on est très obèse, des fois, ben, on se retrouve un peu seul. Hein. Les gens, ils ont, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont peur de vous, mais bon, ça arrive. Hein. Le monde du travail n'est pas un monde de bisounours non plus. Hein. C'est-à-dire que quand vous voulez être, par exemple, coiffeuse ou esthéticienne, moi, je me rappelle une jeune fille, et que vous faites 130 kilos, curieusement, ça ne marche pas tellement bien. Hein, même si, en théorie, vous avez toutes les capacités, etc. Voilà, donc c'est vrai que tout ça, les personnes qu'on suit, bon, sont vraiment des témoins de tout ça. Hein. Donc après la chirurgie, mais parfois aussi uniquement après un suivi, hein, correct. Voilà, pour ce qui me concerne. Et donc là, on va passer à... quasiment, peut-être au prince charmant, enfin, je ne sais pas, il va parler tout seul.
Oui, oui, rassurez-vous. Bien, alors vous voyez que moi je parle le dernier, mais c'est vraiment ma place. C'est vraiment ma place. Vous êtes rendu compte, hop là, pardon, que l'obésité, c'était une maladie. On a essayé de bien vous faire comprendre que l'obésité, c'est une maladie. Et en plus, l'image avec le diabète est vraiment intéressante, puisque c'est une maladie chronique qu'on va garder toute sa vie. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on va faire de façon ponctuelle. Et c'est vrai que la plupart du temps, les patients et la patiente obèse viennent consulter en premier le chirurgien. Bon, évidemment, ils sont reçus, j'explique quelques petits éléments, mais surtout, je vais expliquer aux patients et aux patientes que, eh bien, il va y avoir toute une prise en charge multidisciplinaire, hein, ça c'est le terme officiel, pour s'occuper d'eux. Bien évidemment, tous les patients ne seront pas opérés, ça c'est clair. Hein, mais c'est quand même quelque chose d'assez important, cette prise en charge. Alors, moi, je ne vais pas aller plus loin dans ce qui est le blabla, on va rentrer dans le vif du sujet, on va trancher directement. Pour vous expliquer la chirurgie de l'obésité, moi j'ai quelques dadas, je suis chirurgien, je suis professeur d'anatomie, donc je fais des dessins. Pour vous expliquer comment marche la chirurgie de l'obésité, moi j'ai toujours besoin de faire un petit dessin. Il faut voir comment on est fabriqué. Quand on mange, les aliments passent dans la bouche. Après ici, va débuter un tuyau qui descend jusque dans le ventre, qui est l'œsophage. On va le dessiner. Donc voilà ici le tuyau qui est l'œsophage. Arrivé dans le ventre, dans la cavité abdominale, ce tuyau, il se termine dans une grosse poche qui est l'estomac. Alors c'est une grosse poche qui a une forme un petit peu bizarre comme ça, dans laquelle, vous savez, on peut mettre beaucoup d'aliments en quantité. Noces, banquets, on peut boire beaucoup de quantité d'eau, de soda, de tout ce qu'on veut. En volume, on peut mettre beaucoup de choses dans l'estomac. Et je ne sais pas si vous avez noté tout à l'heure une petite phrase qu'avait dit Martine Breu. Eh bien, pour perdre du poids, il va falloir qu'on diminue la quantité d'aliments à prendre. Donc, nous, chirurgicalement, on va essayer de limiter la quantité d'aliments. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'agir sur les organes dans le ventre. L'organe qui a la plus grosse capacité dans la cavité abdominale, c'est l'estomac, dans lequel on va pouvoir stocker les aliments. Alors nous, on va essayer de s'arranger pour limiter la taille de l'estomac pour qu'on puisse manger moins en volume. Alors, bon, l'obésité, les traitements chirurgicaux de l'obésité, on en a tous plus ou moins entendu parler à la télé, dans des émissions, etc. etc. Et c'est vrai que, si tu veux bien, merci. On a tous entendu parler un petit peu des techniques. Vous avez forcément entendu parler de l'anneau gastrique. C'est quelque chose maintenant dont tout le monde, plus ou moins, a entendu parler. Alors, l'anneau gastrique, c'est quoi? Pour qu'on puisse diminuer la taille de l'estomac, on va s'arranger pour resserrer l'estomac. Là, sur mon petit modèle en plastique, j'ai un anneau. Un anneau, c'est quoi? C'est une bouée, comme pour les enfants, ou une chambre à air de pneus, qu'on va mettre autour de l'estomac. Alors sur mon système, là, ou sur le petit dessin là-haut, vous voyez l'estomac, qui normalement a cette forme-là, autour duquel on a mis en place ce dispositif blanc. Ça, c'est un vrai anneau. D'accord ? Vous voyez que cette bouée ou cette chambre à air, on l'a mis en place autour de l'estomac. On va serrer l'estomac, et on va diviser l'estomac en deux poches. Une au-dessus et une en dessous. Celle du dessous, la grosse poche, elle ne nous intéresse pas beaucoup. Parce que celle-là, ce n'est pas celle qui va contenir les aliments lorsqu'on va s'alimenter. Ce qui va être intéressant, c'est la petite poche au-dessus de l'anneau, de la bouée, parce que ce petit estomac va correspondre à la quantité d'aliments qu'on va pouvoir prendre à chaque repas. Alors vous voyez que le petit estomac, là, il est petit. Hein. Eh bien, on réduit franchement. Alors si, je vais vous donner une image, ce qu'on mange par repas tient en volume, en quantité, dans le creux de ma main. Ouais, comme vous dites. Voilà. Donc, vous imaginez bien que ça nécessite quand même d'être préparé. Hein. Pour arriver à s'alimenter en quantité par repas de comme ça, ça va modifier la quantité, ça paraît évident, la qualité des repas, la manière, j'allais dire moi, de faire ses courses, de cuisiner, de manger en famille, parce que si dans la tablée, il y en a un qui mange sans quantité et les autres normalement, il faut quand même organiser tout ça. Donc une chirurgie de l'obésité, vous imaginez bien que ça se réfléchit un peu avant. Hein. Il faut être prêt à deux endroits, là et dans son assiette. D'accord ? Donc l'anneau gastrique, c'est une de ces méthodes. Donc, bon, pour être complet, vous voyez que mon petit anneau qui est là autour de l'estomac, il est relié par ce tuyau à une petite boîte. Cette petite boîte, on la met sous la peau des patients et des patientes, et comme ils disent à la télé dans les émissions, on va pouvoir resserrer l'anneau, on va pouvoir gonfler ou dégonfler la bouée. Donc on peut piquer dans cette petite boîte et gonfler la bouée pour limiter encore le passage des aliments au travers de l'anneau. Donc ça, c'est le principe de l'anneau gastrique où on va réduire la taille de l'estomac, réduire la quantité d'aliments à prendre à chaque repas. Alors, c'est assez intéressant. Bon, sur ma diapositive, je vous ai dit, vous le voyez ici en haut, je n'ai pas ma petite flèche, mais c'est écrit là, l'anneau, ça a un gros intérêt. C'est quelque chose qu'on rajoute. Donc, le jour où il y a un souci avec l'anneau, qu'est-ce qui se passe ? L'anneau, c'est un système, on va dire, en plastique. Ce n'est pas vraiment du plastique, mais c'est comme ça. On le coupe, on l'enlève, et comme on n'a pas touché l'estomac ni quoi que ce soit, une fois que l'anneau est enlevé, on retrouve un estomac normal. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça veut dire que c'est une technique réversible. On peut revenir en arrière. Le petit hic avec l'anneau, c'est qu'on rajoute quelque chose. Et chaque fois qu'on rajoute quelque chose, cette chose-là, ce dispositif, en l'occurrence l'anneau, ça a une durée de vie. C'est comme les machines à laver, les trucs, ça a une durée de vie, on n'y peut rien, c'est comme ça. La durée de vie moyenne d'un anneau, allez, c'est 5 à 7 ans. Bon, ça peut être beaucoup, ça peut être le double, ça peut être un petit peu moins, mais dans la vie d'un patient qui a un anneau gastrique, un jour ou l'autre, on enlèvera l'anneau. Alors le petit souci avec ça, c'est que lorsqu'on enlève l'anneau, au mieux le poids est stabilisé, et le plus souvent, et généralement, on a une reprise de poids. Et puis, c'était une technique donc, qui n'est pas définitive, qui est réversible. Alors, pour certains patients, ce n'était pas parfait, parce qu'il y a des patients qu'on ne peut pas réopérer plusieurs fois. Donc, il fallait trouver une solution. Et la solution, c'était toujours la même idée que ce qu'on mange, tiens, dans le petit creux de ma main. Mais il fallait faire quelque chose qui soit fait une fois pour toutes. Alors, chirurgien, on a coupé, on est là pour ça. On ne va pas s'embêter. Voilà ici l'estomac. Nous, ce qu'on veut, c'est le transformer en petite poche comme ça. Dans ce cas-là, j'ai pris de feutre bleu, oui. On va couper l'estomac comme ça. C'est ce qui est marqué là-haut. D'accord ? On va couper l'estomac comme ça et on va enlever tout le morceau ici, l'estomac, que je vais hachurer comme ça. Donc votre estomac, qui est une grosse poche, on va le transformer en tube. Et pour vous donner une idée, le calibre du tube, c'est mon doigt. D'accord ? Donc ce qu'on va manger en quantité va tenir là aussi dans le creux de ma main. Donc cette intervention, comme vous le voyez... Ouais, mais ça c'est... S'il y a des questions. Ça, cette intervention, ça s'appelle la sleeve gastrectomie, la gastrectomie en manchon ou en chaussette. Alors ça, une fois que c'est fait. D'accord ? On ne peut pas revenir en arrière. Donc pour l'instant, l'anneau, la sleeve gastrectomie, j'allais dire même combat. Ce qu'on mange tient dans le creux de la main. Ça marche bien, c'est très intéressant pour beaucoup, beaucoup de patients. Mais ce n'est pas parfait pour tout le monde. Alors, il a fallu trouver un peu autre chose. On est reparti sur les dessins. On recommence. Le tuyau qui va de là au ventre, l'œsophage. Hop, voilà ici l'œsophage. L'estomac, la grosse poche. Comme ça. D'accord ? Comme ça. La base de la chirurgie de l'obésité, c'est toujours pareil. C'est ma main. Ce qu'on va manger tient dans le creux de ma main à chaque repas. Donc là, toujours la même idée, on va s'arranger pour faire un petit estomac. Donc on va découper l'estomac, comme ça. Et on va faire un petit estomac comme ça, qui correspond au volume de ma main. D'accord ? Donc vous allez me dire, comment ça va fonctionner cette histoire ? Puisqu'on a coupé ici, les aliments, ils vont arriver là, ils vont se mettre là, ils ne peuvent plus aller là, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Alors c'est là où il y a le deuxième effet. Le deuxième effet qui se coule, c'est de prendre du petit intestin, de l'intestin grêle. On en a plusieurs mètres. On va en prendre 1,50 m et on va venir le rabouter ici, comme ça. Ça va faire quoi ? Ça va faire que les aliments, en petite quantité, vont aller directement ici, comme ça. Et ils vont continuer leur petit bonhomme de chemin, comme ça, dans l'intestin. D'accord ? Alors vous allez me dire, mais ça fait quoi cette histoire ? Je vous ai dit que ça faisait deux choses. La première, vous avez bien compris, ce qu'on mange en quantité, c'est réduit. C'est ma main. Le deuxième effet, les aliments passent ici et ils ne passent plus là. Vous voyez qu'il y a un bout d'intestin dans lequel les aliments ne passent pas. Donc on a court-circuité un morceau d'estomac et d'intestin, pardon. Ça s'appelle le court-circuit gastrique. Donc c'est l'intervention en anglais. Qui est resté, le titre reste en anglais, c'est le gastric bypass. Alors, l'intestin, il sert à quoi ? L'intestin, ici, par exemple, ce bout d'intestin, sert à quoi ? Il sert à attraper dans les aliments tout ce qu'il nous faut, les vitamines, les oligo-éléments, les machins, tout ça, pour que notre machine fonctionne bien. Là, on est un peu pervers, on s'arrange pour que les aliments soient moins bien utilisés. D'accord ? C'est le deuxième effet du bypass. Premier effet, ce qu'on mange en quantité est diminué, et on s'arrange pour que les aliments soient moins bien utilisés par l'organisme. D'accord ? Alors ça, ça a une conséquence majeure. Si on fait un bypass à un patient ou une patiente, et si on le laisse comme ça, tranquillement, puisqu'il va moins bien utiliser les aliments, il va avoir des carences. Donc, tous les patients, toutes les patientes qui ont un bypass, tous les jours, à vie, vont avoir des vitamines à prendre. D'accord ? Alors c'est quoi ? Xavier, tu ne veux pas citer les vitamines parce que tu les connais mieux que moi. Martine, s'il te plaît.
La vitamine D, B12, B9, donc de spécial folding, des compléments polyvitaminiques que vous trouvez dans toutes vos bonnes parapharmacies.
Et les moins chers.
Avec, voilà, qui prennent du zinc, du sélénium, fer et voilà, le calcium. Et au total, ça fait une quinzaine, vingtaine d'euros de votre poche, non remboursée par la Sécurité sociale.
Voilà, donc il y a un complément multivitaminique, alors style, je ne sais pas moi, Bion 3, Alvitil,
Bozinc,
il y a plein de trucs comme ça qu'on demande, qu'on oriente les patients pour qu'ils les achètent souvent dans les parapharmacies des grands magasins, puisque c'est le moins cher. Parce que ça, c'est un complément multivitaminé, ce ne sera jamais un médicament, ce ne sera jamais remboursé, alors que la vitamine D, la vitamine B12, le fer, etc., le calcium, ça, ce sont des prescriptions qu'on peut faire. Et c'est vrai que ça fait quand même combien de comprimés ? 4 comprimés par jour ?
Ouais. 3 2 ampoules, 4 comprimés.
Voilà, à prendre.
4-5 comprimés, 2 ampoules.
À peu près plus dans ces eaux-là. Donc, pour la chirurgie de l'obésité, c'est vrai qu'on a des solutions chirurgicales, mais vous voyez que c'est quand même des choses assez sévères. Hein. Je suis un petit peu méchant avec les patients, mais avec des résultats tout à fait intéressants. Alors, vous voyez, ça, c'est un petit peu le minimum syndical de ce qu'il faut savoir hein, pour comprendre et être au courant de ce qu'il faut connaître pour une chirurgie de l'obésité. Alors, bon, évidemment, quand j'explique ça aux patients en consultation, c'est un petit peu plus complet, je raconte plein d'autres choses, et en particulier les complications. Mais je leur dis que c'est effectivement ce qu'ils doivent savoir. Après, il y a des choses que moi, que nous, on ne connaît pas forcément. Et c'est là tout l'intérêt de l'association des patients. Et là, ça me permet d'introduire Karine Boutin, donc Madame Boutin, qui est la présidente de l'association des patients, qui va vous dire un petit mot concernant l'organisation de son association.
Bonsoir à tous. Donc, je suis Karine Boutin, présidente de l'association Chrysalide Poitou-Charentes. Cette association a pour but l'aide et le soutien auprès des personnes atteintes d'obésité qui sont en démarche d'amaigrissement, donc soit par voie opératoire ou pas. Nous ne sommes pas une association médicale. Il n'y a pas de médecin dans l'association. On a la chance, en fait, d'être soutenu par le réseau. Et donc, en l'occurrence, nous, à chaque fois qu'il y a une question d'ordre médical qui est mentionnée, on renvoie immédiatement vers le réseau. L'accompagnement s'effectue par plusieurs activités au niveau de l'association. Donc, on essaye de maintenir une activité physique en réunissant les adhérents. Donc, on fait une sortie marche une fois par mois, des sorties balnéo une fois par trimestre. Et principalement, le pilier de l'association reste les écoutes et partages que l'on organise une fois par mois sur Châtellerault et sur Saint-Mexan. Et enfin, les groupes de parole qui sont sur Poitiers, quatre fois par mois. Donc il y a trois groupes de parole pour les personnes opérées et il y a un groupe de parole pour les personnes non opérées. Donc les groupes de parole, il faut savoir qu'ils sont animés par des professionnels qui sont bénévoles au sein de l'association. Donc, en général, il y a, selon les besoins, une psychologue qui peut intervenir et autrement, moi-même, qui suis psychanalyste. Les bénéfices donc, pour les adhérents sont multiples. Ça permet aux personnes de ressentir un mieux-être en partageant leur expérience et de se sentir entendues. Et il y a également la possibilité aux personnes présentes de trouver une place qu'elles ne trouvent pas forcément dans leur vie quotidienne, tout simplement parce qu'elles sont incomprises. Nous souhaitons que chacun puisse apprendre sur lui, puis avancer sereinement vers son cheminement dans l'amaigrissement. Ça, c'est notre but principal. En ce qui concerne les groupes de parole, ce qui en ressort le plus souvent, c'est la phrase qui est la plus marquante, c'est dans les groupes de parole, écouter l'autre vient dire qu'on s'entend un peu soi-même. Souvent, on n'ose pas... On a une tendance à ne pas s'écouter quand on parle, mais quand on entend la personne qui vit la même chose, ben forcément, ça résonne en nous et on se retrouve tous ensemble. Voilà. Donc clairement, Chrysalide crée des liens d'amitié, des liens forts et des liens de solidarité que peu de gens ont connus ou que les personnes reconnaissent enfin. La plupart des adhérents donnent un retour très positif de leur expérience au sein de l'association. Et en fait, nous, clairement, ce qu'on essaye de leur donner, c'est le cheminement qu'ils ont toujours voulu avoir et c'est simplement qu'ils puissent se retrouver eux-mêmes. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Boutin. Alors, on va donner des coordonnées peut-être pour vous joindre. Comment on peut joindre l'association ?
Alors, pour nous joindre, il y a le site www.chrysalidepoitoucharente.fr.
Ça s'écrit ?
Alors, ça s'écrit K-R-I-S-A. L-Y-D et Poitou-Charentes tout attaché. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, également sur Twitter. On est un peu partout au niveau des réseaux sociaux.
Puis on pourra vous voir à la fin, d'ici une demi-heure, pour vous demander tout ça, si vous n'avez pas eu le temps de noter, en tout cas. Parfait. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on applaudisse encore une fois Madame Boutin, puis tous nos intervenants qui ont été clairs. Je pense qu'on a compris plein de choses. On va commencer avec les questions. Donc vous levez la main, puis je viens vers vous. Question écrite pour commencer. Quels sont les risques des opérations pour le corps et comment savoir quelle opération est la plus adaptée à la personne ? C'est parti.
C'est parti. Je prends le rouge. Allez. Alors, les risques des opérations pour le corps. Ah, c'est une question un petit peu large. Effectivement, la chirurgie, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Une intervention chirurgicale, ça nécessite... une anesthésie générale, toutes ces interventions, que ce soit l'anneau gastrique, que ce soit la sleeve gastrectomie ou le gastric bypass, sont réalisées. Vous savez, on ne fait pas de grandes cicatrices, on fait des petits trous, on fait une celluloscopie. Donc déjà, en termes de cicatrices, c'est quelque chose qu'on va limiter au maximum. Le risque principal de la chirurgie, eh bien, c'est les complications liées directement à l'intervention. Si on reprend chaque intervention, les complications directement liées à la pose de l'anneau en péropératoire sont assez faibles, voire pratiquement nulles. Dès qu'on arrive dans les choses plus compliquées, qu'on commence à couper l'estomac, comme dans la sleeve, qu'on commence à couper l'estomac et puis à faire un peu de plomberie en faisant de la couture et des soudures diverses et variées, évidemment, le risque de complications augmente aussi. Alors, ce risque, on va le chiffrer autour de 3% de ce type de complications. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais pour le patient qui a une complication, c'est 100% d'embêtement. Bon, heureusement, on a les moyens de traiter et de diagnostiquer maintenant très tôt ces complications et de les traiter de manière plutôt efficace. Ensuite, je pense que les conséquences pour le corps, c'était plutôt les conséquences d'une perte de poids rapide dans la question. Alors, les conséquences d'une perte de poids rapide, physiologiquement, lorsque les patients ont du diabète, par exemple, l'effet est assez immédiat. Dès le post-opératoire immédiat, les patients qui ont des antidiabétiques, que ce soit par la bouche ou de l'insuline, les doses diminuent de façon assez impressionnante et très rapidement. On a aussi, par exemple, les patients qui ont de l'hypertension artérielle. Les patients avec de l'hypertension artérielle, eh bien, c'est vrai qu'il faut très rapidement, parfois, baisser le traitement, parce que sinon, on a des hypotensions, et là, on ne se sent pas très bien. Donc, on peut avoir des malaises liés à ça. La perte de poids rapide et les conséquences physiologiques, là, je vais céder la place et la parole à mes petits camarades, parce que je suis un petit peu moins à l'aise.
Alors, il y a des conséquences, effectivement, sur certaines régulations hormonales, notamment sur les régulations de l'appétit. Donc, c'est certain que l'appétit chute de façon mécanique, vous l'avez vu, avec la réduction du volume de l'estomac, mais aussi avec certaines implications hormonales, puisqu'il y a des hormones qui sont sécrétées au niveau du tube digestif et dont la modulation est différente après la chirurgie. On va même, du coup, jusqu'à avoir des dégoûts pour certains types d'aliments qui n'étaient pas du tout existants avant la chirurgie, notamment pour ce qui va être la viande rouge en général. Après, il y a beaucoup de choses qui sont très diverses d'une personne à l'autre. On essaie de prévenir les personnes qu'il peut y avoir une chute de cheveux qui suit l'intervention. Ça, c'est notamment lié aux carences en certaines vitamines et en zinc. Et puis, il y a toutes les conséquences aussi d'ordre psychologique. Et c'est tout l'intérêt d'évaluation psychologique ou psychiatrique avant et parfois après l'intervention, parce qu'il faut pouvoir, comme le disait le docteur Lévy tout à l'heure, reconnaître son image corporelle. Et outre l'amélioration du diabète, de l'hypertension, une complication fréquente de l'obésité, qui sont les apnées du sommeil, eh bien, des gens qui avaient un appareillage, vous savez, avec un masque pour éviter ces apnées, eh bien, dans les 6 mois qui suivent, sont réévalués, parce que bien souvent, il n'y a plus besoin d'être appareillé.
Les conséquences sont plutôt bonnes.
D'accord. Question technique, on nous demande les différences entre le sleeve et le bypass.
Alors,
vous nous expliquez bien ce que c'est, s'il vous plaît.
Je recommence mes petits dessins.
Ouais.
Deux systèmes pour perdre la base, pardon, pour perdre du poids, c'est de diminuer la quantité à prendre. Toujours ma main, ma mimine. D'accord ? Ce qu'on va manger par repas va tenir dans le creux de ma main. Dans le cas de la sleeve, on va couper la grosse poche de l'estomac, enlever tout ce qui est hachuré ici et transformer l'estomac en tube qui est là et qui est calibré sur mon doigt. Donc le calibre de l'estomac ici est mon doigt. Ça veut dire que simplement on va diminuer la taille de l'estomac de façon importante. C'est tout. On diminue la taille. Donc simplement on limite la quantité d'aliments à manger par repas. Avec le bypass, on fait deux choses. La première chose, c'est limiter la quantité d'aliments. Toujours ma main. Ce qu'on mange tient dans le creux de ma main par repas. Deuxième effet avec le bypass, on s'arrange pour que les aliments soient moins bien utilisés par l'organisme en diminuant un peu la longueur de la tuyauterie. Donc là, dans le cas du bypass, on mange moins en quantité et les aliments sont moins bien utilisés.
Voilà. Je pense que la question, docteur, était plutôt dans quel cas de figure vous choisissez telle technique.
Ah. Alors, ça, c'est assez compliqué. Ah. Qui décide, voilà. Bon, c'est moi. Non, pensez bien que c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, chaque dossier est différent. Assez souvent, on voit arriver à la consultation des patients qui nous disent « Je connais quelqu'un, j'ai ma belle-sœur, la cousine, la voisine qui a une sleeve, je veux une sleeve. » eh ben, cette personne-là n'aura peut-être jamais de sleeve, voire ne sera jamais opérée. C'est vraiment dossier dépendant. Tout ça dépend des objectifs, des antécédents de la personne, des maladies qu'il y a éventuellement associées, de plein d'éléments. En fait, chaque dossier est différent. La prise en charge initiale est la même pour tout le monde. Au départ, il faut expliquer les interventions, il faut expliquer pourquoi on va se mettre à plusieurs pour suivre les patients, quelles sont les étapes, et au fur et à mesure qu'on fait connaissance avec les gens, qu'on apprend à connaître un petit peu leur obésité, leur manière de vivre, leur mode d'alimentation, ça c'est vraiment un boulot qui est important, hein. Eh bien on va se faire une petite idée de quelle est l'intervention la plus appropriée au patient. Et puis il faut s'adapter un peu à tout. On peut avoir un patient qui va travailler de nuit, un patient qui n'aura qu'une demi-heure pour sa pause repas à midi, un patient qui va être, routier, qui va emporter ses repas pour la semaine. Voilà, il faut s'adapter à tout. Donc chaque cas est différent et c'est vrai qu'on essaie de s'adapter à chaque dossier. J'ai pas dit de bêtises ? Ah, attendez.
Oui, en fait, en pratique, au fur et à mesure, on se fait chacun de nous se fait une idée de l'intervention la mieux adaptée à nos patients. Et quand on se rencontre, on a des réunions tous les mois, justement, pour voir nos dossiers. A priori, on est toujours d'accord sur une sorte d'intervention. Après, le patient, il a aussi son mot à dire. Je ne sais pas, on va dire, on vous propose une sleeve. Le patient, il va vous dire, moi, je voudrais un bypass. Alors, soit on a une contre-indication et on lui dira non, on ne vous fera pas de bypass pour telle et telle raison, soit on n'a pas de contre-indication sur l'intervention souhaitée par le patient et à ce moment-là, on lui dit, c'est peut-être pas ce qu'on aurait conseillé pour vous, mais si on n'a pas de contre-indication, on va vous faire, pourquoi pas, l'intervention que vous voulez. C'est quand même dans l'histoire, c'est celui qui dit qui est, quoi. Donc, il faut que le patient ait aussi la possibilité de choisir son intervention. Sinon, on n'a pas de contre-indication, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, en principe, moi, c'est ce que je fais. J'envoie souvent un courrier qui refait la synthèse de tout ça en disant, on vous avait proposé telle intervention pour telle et telle raison. Vous voulez celle-ci, on va vous la faire. Puis après, on verra bien ce que ça donne.
Une autre question, quid des ballons gastriques ? Ce moyen est-il efficace en cas d'une obésité sévère ?
Alors, le ballon intragastrique, c'est, donc tout le monde ne connaît pas forcément, un petit ballon qui est mis par voie endoscopique, comme les gens qui ont une fibroscopie de l'estomac, donc avec un petit tuyau qu'on met dans la bouche jusque dans l'estomac. Donc, on va voir notre anatomiste qui va nous faire le petit dessin. Et ce ballon est gonflé pour occuper du volume dans l'estomac. C'est quelque chose qui est posé sur une période très limitée dans le temps, 6 mois, pas plus, éventuellement remis une fois. Bon, donc déjà, on parlait de l'anneau qui est réversible, le ballon c'est non seulement réversible, mais c'est vraiment très duré dans le temps. Aujourd'hui, c'est plutôt proposé à des personnes qui ont une obésité extrêmement sévère, pour lesquelles l'intervention chirurgicale est importante, mais l'obésité est tellement sévère que la chirurgie peut elle-même être compliquée. Donc l'idée, c'est de faire une première étape avec ce ballon pour les aider à perdre du poids sur 6 mois. Et une fois qu'il y a une perte de poids qui s'est amorcée, eh bien, peut-être passer du coup à l'intervention classique type sleeve, avec moins de risques notamment, parce qu'il y a le risque de l'intervention et le risque anesthésique. Okay. Vous êtes d'accord, monsieur Faure ? Oui,
monsieur. Des questions ? Vous pouvez lever la main, bien sûr.
Bonsoir. Donc, je suis étudiante à la faculté des sciences du sport de Poitiers, donc licenciée en activité physique adaptée et santé. Alors, vous aviez abordé le sport à plusieurs reprises, mais on n'en a pas plus parlé que ça. Et on sait très bien que le sport, d'un point de vue santé, pas forcément santé, enfin, on parlait aussi de la santé psychique pour la revalorisation de soi et l'estime de soi. Donc je pensais que c'était peut-être important d'en parler pour les personnes qui pensent peut-être que à un certain poids, l'activité est physique peut-être compliquée. Mais quand elle est adaptée, je pense qu'elle est possible.
Alors, tout à fait, vous avez raison d'insister là-dessus. On a la chance d'avoir dans notre centre une ancienne de vos promos peut-être, qui est professeure d'activité physique adaptée, éducatrice médico-sportive. La terminologie n'est pas toujours très simple à déterminer. Donc quelqu'un qui est là pour aider les patients à retrouver une activité physique, y compris pour des personnes qui ont des obésités très sévères et qui sont alitées, mais qui apprend en tout cas aux patients à reprendre confiance et connaissance du volume qu'ils occupent dans l'espace. Et donc, elle intervient deux fois par semaine pour nos patients hospitalisés. Et une fois par mois, les gens viennent en atelier externe, quand ils sont volontaires, pour faire des séances collectives. Alors, ça passe par des choses très individuelles pour une évaluation de la capacité et de la sédentarité. Et puis, de façon plus pratique, sur un réentraînement à l'effort individuel, voire parfois, quand c'est possible, à l'effort sportif. Mais c'est sûr qu'on essaie d'encourager au maximum l'activité physique.
Une autre question ? J'arrive. Je fais du sport, vous avez remarqué.
Bravo.
Merci.
Merci. Est-ce qu'on pourrait avoir un numéro de téléphone où on pourrait vous joindre éventuellement pour discuter des conditions adaptées pour faire du sport ?
Vous allez nous organiser une petite bouffe, ça va être sympa. Je rigole.
Oui, est-ce que vous pouvez préciser votre question, madame, s'il vous plaît ?
Attendez, je reviens. Vous le faites exprès, docteur.
Bon, moi, je suis sous contrôle médical depuis quelques dizaines d'années et je suis retraitée maintenant. Et je suis arrivée à Poitiers, voici seulement une quinzaine de mois. Donc, je ne connais pas absolument tous les services qui sont à la disposition des personnes qui souhaitent faire du sport dans le cadre de se reformer en faisant un régime alimentaire. Je fais un régime alimentaire qui est suivi par le corps médical, mais jamais il ne m'a été conseillé, alors que je l'ai demandé plusieurs fois, un service qui fasse du sport adapté aux personnes. Alors, quand je dis retraité, ça vous indique tout de suite mon âge.
C'est vrai qu'au CHU, on n'a pas de service spécialisé dans ce genre de choses. Et c'est vrai aussi que l'activité physique, certes, c'est important, mais l'activité physique à elle seule ne permet pas d'obtenir une perte de poids. Chez les hommes, ça peut encore un petit peu marcher, à condition qu'ils en fassent beaucoup. Chez les femmes, tout au plus, l'activité physique leur permet de ne pas prendre de poids facilement. Ça tamponne un peu, ça amortit. Donc, dans votre cas particulier, je pense que la meilleure des choses que vous ayez à faire, c'est d'en parler à votre médecin traitant et qu'il vous donne une prescription pour aller vers un kiné qui vous donnera les conseils pour faire votre activité. Bon, pour ma part, moi, quand on suit des personnes au long cours et qu'on commence à parler de l'activité physique avec eux, avant de se lancer, on fait une évaluation de l'activité physique de chacun. C'est-à-dire qu'on travaille avec un podomètre, on mesure l'activité physique quotidienne, on évalue cette activité physique quotidienne et progressivement, on essaye de l'augmenter. Mais pour faire vraiment du sport, quand on a un problème de poids, quand on n'a pas l'habitude, ben, le mieux, c'est de passer par l'intermédiaire d'un kiné qui va au moins vous apprendre à ne pas vous faire de mal, à faire une activité physique sans vous abîmer le dos et sans aggraver la situation. Après, il existe bien sûr de ce qu'on appelle des coachs sportifs qui, moyennant finances, s'occupent de vous et vous aident à progresser. L'intérêt de ce genre de choses, c'est qu'ils ont une approche plus personnalisée. Ils s'occupent plus particulièrement de vous, ils vous accompagnent tout au long de votre exercice. C'est souvent très efficace, c'est souvent très coûteux. Donc moi, dans votre cas, ce que je trouverais le plus adapté, c'est de faire affaire avec un kiné qui vous indiquerait ce que vous pouvez faire.
Alors juste un petit commentaire pour préciser qu'il existe au moins deux centres en Poitou-Charentes, notamment le Logis des Francs qui a ouvert l'année dernière à Cherveux, qui est ce qu'on appelle un centre de soins de suite et réadaptation, qui est adapté pour accueillir 20 personnes en situation d'obésité. Et vous faites des séjours d'un mois avec des diététiciennes, certes, mais aussi encadrés par des éducateurs médicaux sportifs pour reprendre l'activité physique. Et dans la Vienne, pour les personnes qui ont eu des problèmes cardiaques, eh bien, il y a le Moulin Vert, qui est un centre de réadaptation à l'effort pour ceux qui spécifiquement ont fait un événement cardiaque dans leur passé.
Voilà, on pourra vous redonner de toute façon ces adresses tout à l'heure, une fois qu'on aura terminé. Vous pourrez bien sûr aller voir les docteurs. Question ?
Bonsoir. J'aimerais demander à notre chirurgien ici présent s'il pouvait nous donner une idée de la durée de temps de chaque intervention.
Oh oui.
Ça dépend. Si
la pause en anneau gastrique, c'est assez rapide. On va dire une petite heure. Une sleeve gastrectomie, on va dire une heure et quart, une heure et demie. Une grosse heure. Et un bypass, 2h30. Et 3h si on papote, mais je parle beaucoup, moi.
Voilà. Question suivante.
Ah. Oui, pardon, merci. Non, ça me gêne. Excusez-moi, vous me... je vous le redonne.
C'est promis. Merci.
Oui, bonjour. Voilà, merci, bonjour. Vous avez évidemment parlé d'une équipe, d'une approche pluridisciplinaire, ce qui paraît bien évident, bien nécessaire, notamment l'approche psychologique, psychiatrique, le suivi. Vous avez évoqué la notion d'image du corps qui évolue et donc qui est très, très lente et progressive. Je voudrais savoir si dans votre équipe, vous avez des psychomotriciens, sophrologues ou autres disciplines qui pourraient se rapprocher de cette, pour compléter cette approche, notamment tout l'aspect corporel, image du corps, conscience du corps, etc., etc.
Alors ça, c'est le rêve de notre vie, ça, d'avoir un psychomotricien. Mais autant vous dire que vu le mal qu'on a eu pour avoir des diététiciens, déjà, les psychomotriciens, c'est de l'utopie totale. Le problème qu'on a avec les psychomotriciens, c'est qu'ils ne sont pas pris en charge, leur intervention n'est pas prise en charge par la Sécurité sociale. Donc même pour nous, comme pour les psychologues, c'est très difficile d'avoir affaire à eux. Moi qui suis membre du GROS, c'est le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, on a toujours travaillé avec l'aide des psychomotriciens. Et au sein de l'association du GROS, monsieur Dallarin nous a vraiment ouvert l'esprit à ça, parce qu'en tant que médecin, pendant nos études de médecine, l'obésité, on ne nous parle jamais de la psychomotricité. C'est un truc... Moi, j'ai découvert ça quand mes filles sont allées à l'école, hein, mais j'en avais jamais entendu parler avant. Mais c'est vrai qu'on en parle souvent, on en fait une demande régulièrement, mais on fait ça sans y croire, parce qu'on sait que c'est pas dans l'ordre du possible. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est évident.
Après, voilà la réponse de nos financeurs, puisque malheureusement, c'est ça, il y a le coût de la santé, c'est que ça coûte et ça ne rapporte pas. Puisque ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Du coup, on est très heureux d'avoir recruté un diététicien en plus, une assistante sociale en plus, parce qu'on l'a vu, il y a le problème de la prise en charge sociale. Donc un éducateur médico-sportif, ce n'était pas gagné. Et voilà, le choix n'a pas été retenu pour un psychomotricien ou même une sophrologue. Alors, nos collègues du logis des Francs ont ce type d'intervenant chez eux. Et en fait, ils ont joué finaux. C'est que c'est une diététicienne qui est également sophrologue et une infirmière qui est également éducatrice médico-sportive. Donc, ils jouent sur la polyvalence des personnes. Voilà, c'est plutôt intelligent. Malheureusement, on ne trouve pas ce type de personnes partout.
On nous demande de faire un point, s'il vous plaît, sur la chirurgie plastique après la perte de poids. Qu'est-ce qui est pratiqué? Comment? Pourquoi? Et dans notre région?
Ah, ça, c'est très important, c'est le service après-vente. C'est vrai que quand vous avez perdu 50 kilos, vous avez une enveloppe corporelle qui ne vous correspond plus. Et il faut arriver à refaire tailler son corps, sa peau à son nouveau corps. Donc c'est vrai qu'on travaille énormément avec les chirurgiens de chirurgie esthétique et réparatrice. Au CHU, on a de la chance d'avoir un très bon service. En ville, en secteur privé, on a aussi un très bon chirurgien. Ils peuvent faire plein de choses, refaire des ventres, refaire des poitrines, les bras, les cuisses. Enfin, les possibilités sont très nombreuses. Certaines interventions sont bien prises en charge par la Sécurité sociale selon certains critères. Donc pour le ventre, il faut avoir un pli qui fasse tant de centimètres. Enfin bref, le chirurgien sait bien évaluer ce qui va être pris en charge par la Sécurité sociale ou pas. Dans le parcours de soins, moi j'envoie les personnes chez le chirurgien esthétique bien avant que le poids se soit stabilisé. Parce que en fait, le chirurgien esthétique intervient quand le poids est à nouveau stable. J'envoie les gens bien avant pour qu'ils aient le temps d'en discuter et de se faire une idée de ce qui les attend. On a tous une idée un peu fantasmatique de la chirurgie esthétique. On se dit, ouais, il va me refaire ci, il va me refaire ça, je veux ça. Puis après, quand vous allez voir le chirurgien, il vous dit, bah oui, mais ça, je ne peux pas pour telle et telle raison, et ça, ce n'est pas possible pour telle et telle autre. Donc, pour éviter toute vision trop fantasmatique de l'affaire, y aller au bout de 6 mois, 1 an après une chirurgie bariatrique, c'est tout à fait raisonnable pour se faire opérer au moins 1 an encore après. Mais c'est vrai que ces interventions sont nombreuses et elles sont
extrêmement codifié par la sécurité sociale.
Alors ça c'est important parce que, bien évidemment, quand vous avez perdu, là, j'ai vu une patiente tout à l'heure qui a perdu 74 kilos. Hein, d'accord. En deux ans et un peu plus de deux ans. Bon. Alors, elle est assez jeune, à 35 ans, mais bon, ceci dit, elle a des plis un peu partout, quoi. Hein, donc, bon, l'enveloppe est rétractable, hein, la peau est élastique, mais enfin, il y a quand même des limites. Donc, c'est vrai que cette jeune femme, là, elle est en train de rentrer en dépression, quoi, parce que quelque part, elle n'arrive plus à supporter hein, cette peau qui pend, enfin, et qui quelque part lui rappelle aussi qu'elle a été très obèse. Hein, donc, il y a également ça. Donc, c'est vrai que même sur le plan psychologique, c'est assez important de pouvoir ensuite faire, comme dit Madame Moreau, le service après-vente. Et nos collègues chirurgiens plasticiens sont là pour ça.
Oh oui, ils font des choses assez intéressantes. Hein. Ils font des choses assez intéressantes. Bon, en pratique quotidienne, on va dire ce qui tombe le plus, parce que c'est le mot tomber qui est le plus souvent employé par les patients et les patientes, c'est bien évidemment le ventre, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Et chez les patientes, les seins. Voilà. Donc, une demande très fréquente, c'est l'abdominoplastie, c'est d'enlever la peau du ventre. C'est une intervention qui se fait très, très régulièrement, pratiquement pour tous les patients. Il faut être honnête. Au niveau des seins, c'est un peu plus compliqué parce que la prise en charge est moins bonne par la Sécu. Donc, ça nécessite parfois un financement qui peut être assez, assez conséquent par les patients. Et ensuite, il y a le problème des cicatrices, il y a le problème de la perte de poids, etc. Donc, c'est vraiment individuel. C'est comme l'indication d'une chirurgie bariatrique. Là aussi, c'est la discussion avec le chirurgien qui permet de se faire une idée.
À partir de quel âge peut-on subir une intervention chirurgicale ? En fait, la question est-ce qu'un enfant qui serait obèse, atteint d'obésité, pourrait subir une intervention ?
La loi définit bien les choses. Hein, en France, c'est au-delà de 18 ans. On n'opère pas les enfants. Il y a quelques chirurgiens qui se tentent là-dessus, mais c'est complètement, si Jean-Pierre est d'accord, hors la loi. Hein. En dehors d'un programme hospitalier de recherche qui est en cours chez les 16-18 ans où l'anneau gastrique est testé. Vous voyez, c'est l'intervention qui est réversible. Mais on n'opère pas les enfants en France ni en Europe. Et on a vu très récemment un enfant opéré de 4 ans en Inde, voilà. Mais ça, c'est complètement illusoire. Donc, pas de chirurgie chez l'enfant.
Pas de chirurgie chez l'enfant en théorie, mais en pratique, il y a un centre à Paris, à la Salpêtrière, qui opère des adolescents qui sont suivis du point de vue endocrino et diététique par l'équipe du professeur Tougnan. Le problème, à mon avis, majeur, c'est qu'à la Salpêtrière, ils ne font que des bypass. Et faire un bypass à un adolescent, moi, ça me paraît complètement irréaliste parce qu'on connaît le peu de compliance des adolescents par rapport à leur maladie, à leur traitement. Je ne suis pas sûre qu'après, ils prennent correctement leurs vitamines, leurs compléments alimentaires. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec le diabète chez les adolescents. Il arrive toujours un moment où ils envoient péter tout leur traitement et tout leur contrôle. Donc, à part ce circuit extrêmement particulier entre la Salpêtrière et le professeur Tougnan, normalement, c'est vrai qu'on ne doit pas opérer des enfants avant 18 ans.
Question qui peut paraître simpliste, qu'on me pose aussi, on me demande, mais qui est très intéressante, on me demande si l'accumulation de régimes, Pierre Du et autres, sont mauvais pour le corps.
Parce qu'on a parlé
de la santé tout à l'heure, mais
oui,
le corps.
Bien sûr, mais de toute façon, c'est ça. Plus vous grossissez, plus vous maigrissez, plus c'est facile de grossir et difficile de maigrir. Et tout ça, c'est un gros traumatisme pour votre organisme. À chaque fois, il faut qu'il se réadapte. Et c'est de la même façon que maigrir pour l'organisme, c'est fatigant. Grossir, maigrir, ça devient extrêmement fatigant pour le corps. Et c'est un facteur de risque supplémentaire. Tout à l'heure, on a parlé de la chirurgie et du risque opératoire. Il faut penser que si on en arrive à proposer ça à nos patients, c'est qu'on pense que le risque opératoire est bien inférieur au risque qu'on prendrait à laisser les gens comme ils sont. C'est-à-dire que la chirurgie, pour nous, c'est quand même la moins mauvaise solution possible et c'est certainement plus intéressant que de laisser les patients comme ils sont. Il y avait une étude, je crois que c'est toi qui nous l'avais sortie, Jean-Pierre, qui montrait que les gens opérés pouvaient bénéficier de 13 ans d'espérance de vie supplémentaire. C'est quand même pas rien.
Est-ce qu'il y a un facteur psychologique qui peut empêcher de maigrir ?
n'y en a pas, hein, il y en a beaucoup. Alors c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, il faut voir comment hein, on est arrivé à être obèse. Donc là, c'est du cas par cas, là aussi, hein, donc, par rapport à l'histoire de chacun. C'est vrai que les facteurs traumatiques, hein, comme j'expliquais, par exemple, le fait d'avoir subi un viol ou un abus sexuel dans l'enfance ou dans l'adolescence, indéniablement, les gens se mettent à grossir parce qu'en effet, ils ont recours aussi de manière compensatrice à l'alimentation comme un facteur de consolation, un facteur d'affection qu'ils n'ont pas eu. Hein. Et quelque part, l'obésité devient une carapace pour eux. Hein. En particulier, on voit ça chez les femmes hein, qui quelque part, inconsciemment, sont un petit peu moins visibles au regard des hommes comme des objets sexuels. Mais pour autant, sont beaucoup plus visibles parce qu'elles sont obèses. Hein, donc, ça peut paraître un peu contradictoire. Donc là, ça reste un facteur très important. Et quand les gens en ont conscience, on les amène donc à essayer de faire une psychothérapie, si possible, en même temps pour ceux qui doivent être opérés. Hein. Autrement, ça peut être très dangereux de maigrir et de ne pas avoir du tout dévoilé ce problème-là. Hein. Ça peut pousser à la dépression, voire au suicide. Alors après, il y a les troubles anxieux, hein, le fait d'être très anxieux et de compenser aussi par l'alimentation. Et il y a un autre quelque chose d'important, c'est le fait de ne pas penser à soi. Hein, c'est-à-dire, très souvent, on voit des personnes qui se consacrent totalement aux autres, à leur famille, à leurs enfants, à leur mari, à tout le monde, sauf à elles. Hein, donc ces personnes-là ont une vie très, très occupée, finalement, à s'occuper des autres. Et nous, on leur dit, mais stop, là, maintenant, vous allez vous occuper de vous. Hein, donc, et ça, c'est très déconcertant quand on n'a pas l'habitude. Hein. Apprendre à s'occuper un peu de soi, c'est très difficile, hein, même en dehors de l'obésité, d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose aussi. Alors après, on a d'autres facteurs psychologiques qui peuvent être le fait d'avoir une dépression. Ça peut aussi amener à prendre un certain nombre de médicaments qui peuvent amener à grossir, etc. Mais bon, comme le disent mes collègues, il faut quand même que l'apport calorique dépasse ce qui devrait être pour un moment grossir. Les gens qui vous disent « Non, moi, j'ai toujours mangé extrêmement bien dans ma vie, je suis devenue obèse », c'est pas tout à fait possible. Voilà. C'est plus compliqué que ça.
Une autre question ?
Oui, bonsoir. En fait, je me posais la question, si on fait une opération et qu'on n'a pas eu d'enfant avant, est-ce que il y a compatibilité, justement, en fait, est-ce que ça joue quelque chose ou pas ?
Jean-Pierre ?
Ou pas, c'est ça ?
Il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, ce qui est important, c'est que la grossesse ne doit pas débuter pendant la perte de poids. Donc, s'il y a une grossesse, elle doit avoir lieu, on va dire, au moins un an après l'intervention. Pas pendant la période de perte de poids maximum. Et il faut s'assurer que le bilan vitaminique est correct au moment de la conception. Donc, ça se planifie, une grossesse. Voilà. Il n'y a pas de souci, au contraire, mais ça se planifie. Ça ne se fait pas comme ça.
Oui. S'il vous plaît, je voudrais vous poser une question. Il me semble que la chirurgie... pour conséquence de dégrader la digestion, puisqu'il y a certainement des défauts de sucre gastrique, sans doute, non ? Pas du tout ? Et j'aimerais savoir, enfin, je vais compléter la question en disant, est-ce qu'il ne vaudrait mieux finalement améliorer la digestion, par exemple, en améliorant la flore intestinale ?
Non, ça ne marcherait pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas tout à fait le même rôle. On va dire, pour faire simple, que la flore intestinale, c'est des petites bactéries, des petites choses comme ça qu'on a dans l'intestin, quelle que soit la hauteur, pour récupérer ce qu'il nous faut et pour faire fonctionner la machine. Et même si on a une flore intestinale super musclée et de compétition, ça ne va pas changer grand-chose pour perdre du poids. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas de dopant de flore intestinale qui permettrait d'améliorer ça. Non. Il faut limiter les entrées. Ah.
Juste parce que votre réflexion est très, très intéressante et pertinente, parce que ce qui est a priori avéré, c'est que la flore intestinale d'un sujet obèse versus un sujet qui n'est pas obèse n'est pas la même. Donc ça, effectivement. Et ce qui a été fait, c'est, pas chez l'homme, mais chez les souris, de échanger, si vous voulez, les flores bactériennes. Et comme vous avez vu la grosse souris là, du docteur Lévy, avec la souris à côté, ils ont échangé les flores bactériennes. Et effectivement, celle qui récupère la flore bactérienne de la souris obèse, eh bien, prend du poids. Et celle qui récupère la flore de la non-obèse, eh bien, perd du poids. Mais la flore intestinale d'origine revient. Et donc, c'est un effet transitoire. Donc, c'est très intéressant. Ça fait beaucoup phosphorer de chercheurs, et à juste titre. D'ailleurs, on a à peu près la même chose dans le cadre du diabète de type 2 aussi. Et on n'est pas encore à l'étape de changer nos flores bactériennes.
L'adénovirus V36 qui compte aussi beaucoup dans l'histoire. Il n'y a pas que la bactérie.
Dans le micro, s'il vous plaît.
Non, c'est juste pour...
D'accord. Docteur Breu disait tout à l'heure, vous disiez dans votre exposé qu'on avait un certain nombre de kilocalories à respecter par jour, qu'il y avait des idées reçues comme le petit déjeuner, etc., etc. Est-ce que si on saute des repas mais qu'on a quand même sa totale dans la journée, est-ce que c'est bon ou pas? Parce qu'il y a des gens qui nous disent qu'ils ne peuvent pas faire tous les repas pour des raisons X.
Alors, manger quand on n'a pas faim, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de se forcer à manger le matin si on n'a pas faim. On ne veut pas demander d'un côté aux gens de perdre du poids et après les forcer à manger quand ils n'ont pas faim. Il faut être un peu raisonnable. En revanche, ce qui n'est pas intéressant, c'est de sauter un repas si vous avez faim. Si vous avez faim, par exemple, à midi et que vous sautez votre repas, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, vous n'aurez plus faim. C'est ce que les gens disent. Une fois que l'heure est passée, on n'a plus faim. On n'a plus faim parce que l'organisme se débrouille autrement. Quand il vous dit « j'ai faim », ça veut dire « ma glycémie baisse ». Le cerveau, ça ne marche qu'au sucre, donc il faut se réalimenter. Si vous ne mangez pas, votre corps il va se débrouiller autrement. Il va récupérer du sucre qu'il a transformé, il va recycler un peu le sucre et votre glycémie va augmenter et votre faim va disparaître. Donc tout rentre dans l'ordre. Sauf que au repas suivant, à la première bouchée du repas suivant, vous avez encore trois fois plus faim que d'habitude. Et très souvent, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas intéressant de sauter un repas parce qu'en fait, le suivant, on mange deux fois plus. Sauf que si vous sautez un repas parce que vous n'avez pas faim, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc je vous dis, non, mais ce n'est pas la peine de se casser la tête à chercher des théories très compliquées. C'est il faut manger quand on a faim et pas manger quand on n'a pas faim. Mais rien que ça, c'est difficile à faire.
Est-ce qu'il y a des questions?
On ne peut pas avoir toujours faim. On peut avoir toujours envie de manger, mais on ne peut pas avoir faim. D'accord. Vous voyez, c'est déjà la première complication, c'est de faire la différence entre la faim et l'envie.
Alors, posez bien vos questions dans le micro, s'il vous plaît.
Oui.
Ah ben non, c'est pas difficile. La faim, c'est là, c'est l'estomac qui fait glouglou. L'envie, c'est quelque part par là. Quand vous avez vraiment faim, comme on dit, ventre affamé n'a pas d'oreille. C'est-à-dire, si vous avez vraiment faim, vous mangerez du pain rassis, de la soupe, ce qui va vous tomber sous la main. L'envie de manger, ça va être l'envie de manger ou un fruit, ou un chocolat, ou un truc. C'est plus dirigé vers un aliment spécifique. C'est pas tout à fait la même chose.
Bonsoir. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'après l'opération, le repas, ça tenait dans le creux de la main. Est-ce que c'est pendant toute votre vie ou à un moment donné, on peut avoir un peu plus que le creux de la main, que le creux de la main?
Oui, en effet, il y a des modifications au cours du temps. C'est vrai qu'en post-opératoire immédiat, le creux de la main, c'est encore beaucoup trop. En post-op immédiat, c'est deux cuillères à café. Ensuite, on va s'adapter, évidemment. Les patients et patientes prennent la mesure de leur estomac. C'est pas du jour au lendemain qu'on comprend effectivement d'un seul coup quelle quantité d'aliments on peut mettre dans ce petit estomac. Donc il faut l'apprivoiser un petit peu. Et il est vrai qu'avec le temps, on mange un petit peu plus en quantité. Oui, il y a une petite adaptation et c'est normal et c'est fait pour ça.
Une autre question?
Bonsoir. Moi, je voulais savoir, par rapport à l'anneau gastrique, pourquoi on réduit la quantité à la paume de la main? Pourquoi on ne peut pas faire plus, augmenter un peu cette...
Plus petit ou plus grand?
Plus grand. Enfin, pourquoi réduire à si peu, en fait?
Parce que sinon, en fait, ça ne marche pas.
Pourquoi ça ne serait pas adapté, en fait, au problème de la personne? Une personne qui a beaucoup de poids à perdre, on lui réduit plus. Et une personne qui en a un peu moins, on... Non ? D'accord. Excusez-moi. Non,
en fait, c'est une question intéressante, mais, mais, euh, Mais non.
D'accord, merci.
Ben non. Et en fait, non, il faut avoir une restriction, enfin une diminution importante pour que ça fonctionne. Pour vous dire que ça ne marche pas si c'est plus gros, une des complications de l'anneau, c'est le fait que l'anneau, on va dire, glisse sur l'estomac, que la petite poche en haut devienne un peu plus grosse. Et quand la petite poche devient un peu plus grosse, eh ben on reprend du poids. Donc il faut limiter à ça. Voilà, sinon ça ne fonctionne pas.
Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi j'ai faim, moi. La question qu'on se pose tous, est-ce qu'il y a des choses, ça, docteur Breu, vous allez me répondre. Je vous l'ai déjà posé tout à l'heure, mais je l'aime bien cette question. Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire ? Est-ce qu'il y a des erreurs que l'on fait tous et toutes ici et qu'on pourrait supprimer très facilement ? Je ne sais pas, on a déjà entendu parler des féculents avec le pain, des choses comme ça.
Oh bon, non, ça, on s'en fout.
Non, on s'en fout, d'accord.
On peut manger n'importe quoi avec n'importe quoi. Le tout, c'est de ne pas manger plus que ce qu'on a faim.
D'accord.
Donc, il n'y a pas d'aliments qui soient interdits. Les aliments, ils ne sont pas méchants, ils valent ce qu'ils valent. Donc, il n'y a rien qui vous interdit. Le tout, c'est de contrôler l'ensemble. On n'interdit pas aux gens de manger du pâté ou du fromage. On leur dit, si vous mangez le pâté, il n'y a pas le fromage. Si vous voulez manger du fromage, faites attention à ne pas manger de pâté. Donc, c'est une histoire de contrôler un peu son alimentation, mais sans rien interdire. Les aliments, ils sont ni bons ni méchants. Ils ne vous font pas grossir. Vous pouvez très bien grossir en mangeant que des haricots verts. Si vous mangez 10 kilos de haricots verts par jour, ça fait 4000 calories et vous allez grossir. Bon, vous me direz, il faut les avaler, mais... À l'inverse, vous pouvez très bien maigrir en mangeant 2 tablettes de chocolat. Si vous mangez que 2 tablettes de chocolat par jour, ça vous fait un régime à 1200 calories et vous perdez du poids. Bon, d'accord, vous perdrez vos dents, vous serez dénutri, il y aura plein d'effets secondaires. Mais en termes de poids, la seule chose qui compte, c'est la quantité de calories.
Et de se faire plaisir peut-être aussi.
Ah ben ça, comme disait ma mémé, ce qu'on mange de bon cœur, ça ne peut jamais vous faire de mal, ça c'est vrai.
Alors c'est vrai que c'est important de ce que vient de dire Martine, parce que bon, très souvent, les gens qui ont fait des années de régime, donc des années de galère, se sont fait mal, ils se sont quelque part torturés, donc ils sont dans ce qu'on appelle la restriction cognitive, c'est-à-dire qu'ils s'interdisent, ça j'ai pas droit, ça je peux pas, etc. Donc le cerveau, forcément, il a quand même enregistré tout ça depuis toutes ces années. Et puis après, quand on leur explique que finalement, ce n'est plus du tout ça qu'il faut faire, bon, il y a un petit problème quand même de repère. Hein. C'est un peu compliqué. Hein.
Oui, c'est vrai. Parce que, en fait, c'est des gens qui mangent avec leur tête et ils ne mangent plus avec leur corps. Ils mangent avec leur tête qui dit c'est bien, c'est mal, et pas avec le corps qui dit j'ai faim, j'ai pas faim. Et la première erreur qu'on peut faire, même avec des enfants, quand vous voyez des mères de famille, bon, elles donnent à manger, et puis après, elles disent, est-ce que vous en voulez encore ? Bah oui, on en veut, c'est bon, on en reveut. Maintenant, si vous dites, est-ce que vous avez encore faim ? C'est totalement différent. Parce que ça apprend aux enfants, avant de se resservir, à s'interroger sur leur ressenti. Et de la prévention de l'obésité, ça passe par des petites choses comme ça qui ont l'air de rien, simplement de ne pas laisser le plat sur la table, et simplement dire, est-ce que vous avez encore faim ? Plutôt, est-ce que vous en voulez encore ? Et c'est ce qu'on fait en fait un peu avec nos patients, c'est qu'on fait un peu de la rééducation, c'est-à-dire qu'on leur apprend à se poser la bonne question.
Une dernière question, et après on va manger du chocolat.
Oui, merci. Bonsoir. C'était pour savoir en fait s'il y avait un intérêt à la chrononutrition, parce qu'on en entend parler partout. Et comme vous disiez, il faut manger raisonnablement.
Alors la chrononutrition, c'est un truc qui date du Moyen-Âge. C'est parti de l'idée que manger comme ça faisait plaisir, c'était un peu péché. Mais manger pour travailler, ça, c'est honorable. Donc on mange le matin pour travailler, faire sa journée. Et ceux qui mangent le soir, c'est ceux qui font l'orgie romaine, des festins, des banquets. C'est juste des profiteurs et puis c'est tout. Donc on était parti sur cette idée qui était franchement très, très chrétienne, basée sur la nécessité et tout ça. Après, vers le 19e siècle, quand on a commencé à connaître 2-3 trucs comme l'insuline, le cortisol, qui ont une production dans la journée qui est variable selon les heures, ça a renforcé cette idée. C'est-à-dire que si vous suivez le cycle de production de l'insuline, vous avez plutôt intérêt, l'insuline c'est une hormone qui fait grossir, qui permet le stockage, vous avez plutôt intérêt à manger le matin plutôt que le soir. Donc on s'est dit, mais bon Dieu, on l'avait bien dit, nos ancêtres avaient donc raison, on a intérêt à manger le matin. Sauf que toutes les expériences qui ont été faites, qui consistaient à donner 1000 calories aux gens en une fois le matin, ou en une fois le midi, ou en une fois le soir, montraient que ça ne faisait aucune espèce de différence. Mais quand on tombe sur une expérience qui va dans le sens de ce que vous voulez croire, eh ben, vous enlevez tout le reste. Et en fait, pourquoi ça ne marche pas comme ça? C'est qu'il n'y a pas que l'insuline et le cortisol. On en est maintenant à au moins 40 neurotransmetteurs, hormones qui agissent, qui interagissent, qui se compensent les uns sur les autres, qui agissent quand l'autre il est un. Il y a la leptine, la NPY, à chaque congrès, ils vous en sortent trois à nouveau. Et de toute façon, donc, la chronobiologie, eh ben, ça n'a jamais fait la preuve, jusqu'à présent, de son efficacité.
Voilà. Dernière petite chose, je voudrais que le professeur vous m'explique c'est quoi votre fer à friser avec lequel vous jouez depuis tout à l'heure. Parce que je suis très curieux et je voudrais savoir à quoi c'est, qu'est-ce que c'est.
Ça, c'est mon instrument.
Alors, de temps le micro, s'il vous plaît.
Ça, c'est pas un fer à friser.
C'est pas un fer à friser, d'accord.
Non, c'est pas un fer à friser.
Il y a défrisé.
Ni, et si, ça peut défriser. Ça peut défriser. C'est la graffeuse qui sert à couper l'estomac. Parce que pour faire une sleeve, par exemple, on va prendre la sleeve, hop, c'est assez parlant. Pour couper l'estomac comme ça, de haut en bas, comment on fait? Eh ben, on va l'agrafer. Voilà, avec des agrafes, comme les agrafes pour agrafer le papier. Sauf qu'évidemment, elles ne sont pas en ferraille. C'est des agrafes qui sont en titane. Et c'est ce genre de petit appareil qui va attraper l'estomac, qui va le serrer, l'agrafer et le couper. Voilà. En fait, on va avoir plusieurs rangées d'agrafes, de petites agrafes en titane, qui vont se mettre ici tout le long, comme ça. Trois rangées d'agrafes et qui vont permettre de couper l'estomac. Celui-là, on l'enlève. On le sort du ventre. Hop.
Voilà. Bon.
Oui, oui, bien sûr.
Voilà.
Non.
Ça, dès que c'est un peu gore, ça vous plaît tout de suite. Hein, ça. Alors là, comme d'habitude. Hein. Je voudrais qu'on applaudisse très fort nos intervenants. Merci à eux. On fera un jour un découpage en vrai, un truc, ce serait sympa, je suis sûr qu'on aurait plein de monde. On va remercier le CHU, également l'Espace Mendès France, toute l'équipe technique, les traducteurs, langage des signes, merci mesdames. Et vous, public, bien sûr, d'être aussi nombreux. Je vous rappelle, alors si j'ai beaucoup insisté lourdement avec mon micro, c'est parce que vous allez retrouver tout ce qu'on s'est dit ce soir sur Internet. Donc ça peut être l'occasion de réécouter, il y a peut-être des choses que vous avez envie de réentendre, donc aussi bien les exposés que les questions-réponses. Donc vous retrouverez ça sur le site de l'Espace Mendès France et du CHU. Et il y a les fiches d'évaluation, surtout, vous ne les oubliez pas, elles sont super importantes pour nous. Vous les remettez à nos hôtesses à la fin. Rendez-vous au mois de décembre pour la centième Pôle Info Santé. Comment ? C'est sûr que c'est le centième.
C'est quoi le sujet ?
Sauf que je ne vous donnerai pas le sujet, c'est une surprise. Je vous donne rendez-vous au mois de décembre, vous aurez les informations en temps et en heure. Ça sera aux alentours du 5 décembre. Zoé, est-ce qu'on peut confirmer la date du 5 ou pas ? On peut la confirmer, la date du 5 décembre. En revanche, on vous prévoit une surprise, donc on ne vous dit pas tout de suite la thématique de la soirée. Merci beaucoup. Mais vous viendrez, ça sera super intéressant, je vous le promets. Merci.